Bonsoir, des forces politiques et sociales de la RDC ont exprimé mercredi 20 novembre leur opposition à une révision ou un changement de constitution tel qu'annoncé par le président Félix Tshisekedi. Elles ont révélé leur position dans une déclaration commune lue par Emmanuel Chadari du Front commun pour le Congo, FCC, en sigle à Kinshasa. Les signataires de cette déclaration affirment qu'aucune disposition de la constitution n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais, notamment en garantissant une rémunération décente pour les militaires, policiers, enseignants, médecins et autres fonctionnaires de l'État. Ils ont en outre plaidé pour la récupération de la cité de Bunagana et des centaines d'autres localités sous occupation rebelle. Quel est le faire de cette déclaration? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 21 novembre 2024. Participe au débat Ferdinand Kambéré, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Monsieur Kambéré, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Aussi avec nous dans ce débat, Thierry Monsenepo, il est cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Thierry Monsenepo, bonsoir.
D'accord.
Et Joseph Kongolo, lui, il est analyste politique et coordonnateur du Bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Bonsoir, Joseph Kongolo.
Bonsoir, madame, et bonsoir à tous les co-débatteurs ce soir.
Vous êtes déjà très très nombreux, auditrices et auditeurs de Radio Capi, à réagir au thème de ce soir. Docteur Olivier Kafindo, qui nous écrit depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Nous sommes habitués à voir toujours les forces politiques se rassembler sous prétexte de sauver une situation. Mais mon plus grand regret est que cette union n'a jamais été totalement sincère. Guy Kambouyi à Kananga, au Kasaï Central. Nous saluons cette déclaration de l'opposition réunie qui va dans le sens d'un réveil citoyen, mais notre inquiétude est que nous ne sentons pas la mobilisation de la population par l'opposition, que cette dernière puisse s'en approprier. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, l'opposition s'affiche unie pour dire non à toute révision ou changement de constitution tel qu'annoncé par le président Félix Tshisekedi. Dans une déclaration commune lue par Emmanuel Chadari du FCC, mercredi devant la presse au siège de la SENCO à Kinshasa, les opposants et autres forces politiques et sociales rappellent que contrairement aux affirmations du chef de l'État, l'actuelle constitution n'est pas l'œuvre des étrangers. Ils rappellent également que cette constitution rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum a été mise sur pied pour empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration de l'opposition et forces politiques et sociales de la RDC, lue par Emmanuel Chadari.
Nous, forces politiques et sociales, porteuse des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, celle-ci est issue du travail des Congolais réunis à Simisi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale
que ne constitue en aucun cas une ni de belligérance, encore moins de puissance étrangère.
C'était là Emmanuel Chadari du PPRD. Ferdinand Kambéré, vous êtes avocat. Je rappelle que vous êtes avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. On vient de suivre là votre secrétaire permanent qui s'est exprimé officiellement pour la première fois que le FCC s'exprime officiellement. Vous avez rejoint l'opposition pour... finalement, faire cette déclaration, dire non à la révision, au changement des constitutions telles que souhaitées hein, par ou annoncées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, FCC, à rejoindre finalement l'opposition? Parce que apparemment, vous faites route à part, vous n'aimez pas vous mélanger hein, aux autres.
Merci, Madame Kelly, pour cette opportunité que vous nous accordez. Je voudrais ici encore une fois saluer les auditeurs, les millions des auditeurs de la radio Capi. Et pour répondre à votre question, dire que c'est le FCC qui a rejoint l'opposition, je me demande c'est de quoi on veut parler, parce que l'opposition, le FCC est dans la résistance depuis longtemps, et que les pas... Ce qu'on a vu hier, c'est à quoi tout le monde a assisté hier. C'était un acte à saluer où on a vu finalement les résistants et les opposants, même ceux qui étaient allés aux élections.
Vous n'êtes pas opposant, vous êtes résistant.
On est résistant parce qu'on a commencé à dénoncer les violations massives de notre constitution. Nous avons dénoncé les processus électoraux. Et on est content d'avoir été rejoint par l'opposition en général, ceux qui étaient partis aux élections et ceux qui n'étaient pas partis, parce qu'ici, ça devient maintenant la survie de la nation. Les élections, on pouvait comprendre. Mais ici, c'est vraiment, comme le dit le secrétaire permanent ici, que c'est lui qui a porté en principal la parole de cette unité de ce peuple à travers cette opposition unie. Il vous parle, c'était l'opposition ou les forces politiques et sociales porteuses des aspirations de la population. C'est la population, c'est le peuple qui ne veut rien attendre de ceux qui sont en train d'appeler aujourd'hui des changements de la constitution.
Vous parlez au nom du peuple. Vous avez été mandaté par le peuple.
Vous savez, la légitimité, lorsqu'elle n'est même plus dans les institutions, comme on l'a dit, nous on l'a dénoncé avant même qu'ils aillent aux élections, et après les élections, les faits nous ont donné raison, et nous continuons à contester cette légitimité. Donc, légitimement, nous pouvons nous considérer que ce que nous portons comme parole, comme combat, c'est le combat du peuple, parce qu'on combat pour protéger cette constitution, et ça c'est reconnu
dans l'autre camp. Ça, aussi c'est reconnu parle aussi. Du peuple finalement quel tout le monde veut s'approprier hein.
Quel est le cas de qui parle du peuple, parce qu'on nous a
parce
parlé
parce qu'à l'Union sacrée on parle du choix du peuple qui veut voir cette constitution être révisée,
on attend aussi
voire même changée.
Madame Kelly, on attend aussi qu'il fasse une déclaration commune comme ça, qu'on sente que l'Union sacrée existe encore. Mais au moins, ce qui s'exprime par rapport à ça, c'est tantôt l'article 217 de la Constitution, c'est tantôt le testament de Tshen Tshisekedi que nous devons exécuter, parce que selon le testament, il fallait, dès que nous sommes au pouvoir, nous devrions changer la Constitution. Ça, c'est pas l'aspiration du peuple.
Mais qu'est-ce qui vous gêne dans cette démarche, dans la démarche du président de la République? Qu'est-ce qui vous gêne?
D'abord,
est-ce mauvais de réviser ou de revoir certaines dispositions de la Constitution?
La réponse se trouve dans la Constitution elle-même, madame. La procédure de la révision, elle est constitutionnelle. On est d'accord avec ça, c'est l'article 218. Et ceux qui en ont l'initiative, ils sont connus. Le président de la République... le gouvernement, une fraction du peuple pour 5 000 signatures, les membres d'une des chambres, ainsi de suite. Ils en ont quelle initiative? Mais on ne fait pas autant de bruit lorsqu'on est président pour initier une révision, attendez-vous. On ne fait pas autant de bruit, on ne va pas dans la route, et puis on ne promet pas de créer une commission constituante pour ça. On a un cabinet qui peut réfléchir lorsqu'on a une matière à soumettre à la révision.
C'est sa démarche qui vous gêne?
Non, qui est en dehors de la Constitution? Parce que qui lui demande que pour initier une révision, il faut créer une commission nationale constituante? Non, ce n'est
est-ce que la
part.
Constitution lui interdit de s'exprimer ouvertement, de dire devant, je sais pas, de dire à la population dans un meeting que j'ai l'intention de réviser certaines dispositions?
C'est exact. La Constitution le lui interdit parce qu'il prête serment, madame, sur base de l'article 74 de la Constitution. Et dans ses serments, il dit, moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, je jure solennellement devant Dieu et devant la nation, et le premier alinéa, c'est d'observer, de défendre la Constitution. Il ne peut donc pas être, la Constitution et les lois de la République, il ne peut donc pas être la première personne à vilipender cette Constitution. Parce que lui a l'obligation. Et le serment là, sauf si les gens ne croient même plus au serment qu'ils font, mais nous autres, nous y croyons. Et c'est la première constitution qui reprend le nom de Dieu dans la formule, dans la formule de prestation du serment. Et là, on tient à ça. Parce que lorsque déjà il jure qu'il doit solennellement devant Dieu et devant la nation, d'observer et de défendre la Constitution, il ne peut pas être la première personne à dire que cette Constitution est mauvaise. Il l'a dit à Belgique. Il l'a dit.
Pour vous, la Constitution est parfaite? Elle est parfaite?
Non, ça c'est, une autre question.
Non,
parce que je vous disais là, vous me demandiez si oui ou non, est-ce qu'il lui est interdit de faire ce qu'il est en train de faire. C'est lui est interdit par son serment. C'est l'article 74. Et quand il viole son serment, on retombe pour nous les pénalistes dans les matières qui sont non seulement à l'article 64, parce qu'en réalité, lorsque vous appelez, vous traitez cette constitution de mauvaise, ça veut dire que vous ne la reconnaissez plus, vous reniez votre propre serment, et donc toutes les autres institutions. Parce que finalement, le parlement tient sur quoi? Et même le gouvernement qui est ici de ce parlement tient sur quoi? Et à ce moment-là, nous rentrons dans ce qu'on appelle renversement du régime constitutionnel.
Alors, vous dites
et
non,
c'est,
non
et à ça, la... c'est une infraction
vous
imprescriptible à l'article 64.
Vous dites non à la révision ou encore au changement de constitution. Ça veut dire que pour vous, cette constitution, elle est bonne, elle est parfaite, il n'y a rien à redire, on ne peut
question.
Pas
ça, c'est
la réviser.
Ça, c'est une autre question, madame. Parce que ils sont en train de mélanger les matières de la révision et des changements.
Parce que si le chef de l'État veut aujourd'hui réviser cette constitution, c'est parce qu'il estime qu'il y a des dispositions
qui ne reflètent
plus la réalité.
Il faut
l'adapter au contexte. Ça, c'est selon le président de la République.
Voilà, heureusement que vous le dites, c'est selon lui. D'abord, il devait être, selon ses serments, selon cette constitution, le premier défenseur de cette constitution. Et que donc, quand il a une matière à proposer pour la révision, parce que ce n'est qu'une proposition qui soumet au Parlement, et le Parlement, à travers les deux chambres, qui doit en juger du bien fondé de ce qu'il mène comme démarche, et c'est de là que on doit aller au référendum, après ce processus-là. Si, exceptionnellement, on ne va pas au référendum, au qu'on s'est réuni le Congrès, on peut proposer, parce que ce sont les deux pouvoirs constituants dérivés. Soit c'est le référendum et exceptionnellement le Congrès. Alors, donc, maintenant, lui, s'il a une matière à réviser, mais pourquoi il ne propose pas ça calmement? Parce qu'il y a l'article 219 qui lui interdit encore une fois. Lorsqu'on est en état de siège, en état de guerre, en état d'urgence, aucune révision ne peut être envisagée. Mais ce dans quoi on nous verse aujourd'hui, Mme Kelly, c'est une matière floue. Il n'y a rien, en réalité, d'écrit, une proposition quelconque qui est venue de la présidence ou du président qui a été déposée. Ça nous met mal à l'aise. On nous amène simplement dans un débat, on nous dit qu'on va créer une commission qui devra réfléchir, comme si depuis tout ce temps, imaginez Kabuya 1, quand il commence à annoncer, je crois que c'était au mois de février ou d'avril, qu'il y aura, on va traverser les zones de turbulence, nous ne savions pas ce que c'était. en réalité. Parce qu'on s'est demandé, les gens reviennent des élections. Et même, ils ont bourré les urnes comme on a vu. Ils avaient des machines chez eux. Mais le premier message qui était annoncé par l'IDPS, c'est que nous allions traverser des zones de turbulence. Et après ça, au mois de mai en Belgique, c'est le président. C'était pas encore grave. On dit, bon, parfois il peut peut-être déborder, ainsi de suite. C'était excusable. Mais quand il arrive à Kisangani, ça devient sérieux. Parce qu'il traite cette société, cette constitution de mauvaise. En quoi elle est mauvaise? Bon, il arrive, parce qu'entre-temps, il dit, bon, on fera la révision, mais cette commission peut même changer. Oh, mais finalement, ça devient une commission constituante à ce moment-là.
Changer, c'est la note. Par le référendum, c'est le peuple qui va décider, le chef de l'État.
Justement, ce n'est pas ça la démarche. La constitution a une procédure qu'on doit respecter. Vous avez quelque chose à proposer pour la révision? Proposez, faites une proposition.
Merci.
Amenez ça au Parlement, laissez le Parlement en juger du bien fondé. Parce qu'ici, déjà, l'article 219, je me demande, quand ils ne veulent même pas lever l'état de siège, quand ils savent que les RDF, c'est eux-mêmes qui disent qu'on est agressé, sauf quand ils disent, tantôt, ils veulent accuser d'autres concitoyens. Mais c'est eux-mêmes qui disent que le pays est agressé. C'est
eux-mêmes
qui disent que l'Ouganda est encore
émission.
Là. C'est
eux-mêmes. Maître Kambéry, on vous garde encore dans cette émission. Thierry Monsenepo, vous êtes cadre du parti politique Confession des Congolais, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Comment vous analysez cette déclaration de l'opposition réunie?
Merci madame. D'abord, je commencerai par saluer mon frère aîné, que j'aime bien, Maître Ferdinand Kambéry, ou les auditeurs de Radio Capi. Je commencerai d'abord par vous dire que ce qui me choque, c'est que finalement, il n'y a que de l'amalgame, des procès d'intention et une incompréhension totale qui, en réalité, ne témoigne que d'une envie d'installer une dictature auprès de ceux et celles qui ont fait cette déclaration d'hier. Je commencerai par dire que lorsque j'entends Maître Ferdinand Kambéry dire qu'ils sont des résistants, je suis étonné parce qu'en réalité, étymologiquement parlé, un résistant, c'est un cadre ou un pouvoir ou un groupe d'individus qui évolue lorsqu'il y a une mise en place en face d'un pouvoir qui est perçu comme illégitime. Or, là où même ils ont fait leur déclaration à la CINCO, cette même CINCO a reconnu que les élections de décembre dernier ont réellement témoigner de ce que le peuple voulait, c'est-à-dire une victoire écrasante de Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas d'illégitimité, donc je ne vois pas en quoi ils sont des résistants. Deuxièmement, lorsque j'entends Maître déclarer que le président de la République a dit que cette constitution est mauvaise, il n'y a pas d'endroit où le président a dit que cette constitution est mauvaise. Le président a dit qu'il y a des problèmes au sein de cette constitution. Il a dit que cette constitution a reçu une influence étrangère. Mais cela ne vient pas que du président. Leur nouveau camarade d'ensemble, Monsieur Olivier Kamitatou, qui à l'époque de cette constitution, après que c'est été examiné au Sénat, était président de l'Assemblée, a fait une déclaration sur Jeune Afrique et ça a été lu par tout le monde, où il déclare clairement que cette constitution est la petite sœur de la constitution française. Comme pour dire qu'il y a eu des copier-coller, mutatis mutandis, de cette constitution-là, de la Ve République française vers la nôtre. Au-delà de cela, il y a des articles qui ont été relevés, non seulement par le président de la République, mais aussi par leur nouveau camarade, Denis Essanga, qui a épinglé plus d'une quarantaine d'articles pour dire que ça nécessitait une révision pour moderniser les institutions de la République. Lorsque c'est Félix Tshisekedi qui le dit, c'est un problème. Donc, on a en face de nous une bande de dictateurs en herbe qui veulent imposer une pensée unique. Et je me demande sur base de quoi ils peuvent oser parler au nom du peuple, parce qu'ils ont tourné le dos à ce peuple. Le peuple n'est consulté, entre autres, dans un système démocratique, que via les élections. Mais lorsqu'il y a eu les élections de 2023, ils ont refusé de participer à ces élections, ils ont tourné le dos au peuple. Pourquoi? Parce que le vrai calcul, c'est d'établir un empêchement du gouvernement, un chaos total, pour finalement revenir sur la table des négociations ou créer une position de pouvoir via des conciliabules, ce qui n'est pas du tout acceptable. Lorsque le président de la République dit qu'il va mettre en place une commission pour réfléchir, je ne vois pas en quoi c'est illégal. Lorsque Maître Kambéry dit non, pourquoi on fait du bruit? s'ils ne sont pas d'accord avec les décibels qu'utilise le président de la République, ils n'ont qu'à le dire. Mais où est-ce qu'il y a eu une violation? Il est en train de faire allusion à l'état de siège. Certes, il n'est pas possible à ce que l'on puisse activer une révision vers l'Assemblée ou vers des Congolais qui signent à 100 000 pour activer cette processus, cette procédure. Mais personne ne dit qu'on le fait maintenant. Personne n'a dit qu'on le fait maintenant qu'il y a état de siège. Donc on n'est que dans des amalgames. Lorsqu'il est en train de soutenir qu'aujourd'hui, il ne faille pas discuter sur les possibilités de réviser, d'émanciper des articles de cette loi fondamentale, c'est une dictature où on dit aux Congolais, taisez-vous, vous n'avez rien à dire parce que vous n'avez pas le droit de penser à X ou Y. Lorsque, en 2011, il y a eu une révision de cette même constitution, qui a interdit qui à pouvoir le faire parce que ça avait respecté la procédure? Maître vient de reconnaître que, selon l'article 218 de la Constitution, le président de la République fait partie des mécanismes qui peuvent permettre d'enclencher cette procédure de révision de la Constitution. Donc, dire qu'il n'a pas le droit, ça n'a pas de sens. Dire qu'il n'est pas légitime pour le faire, ça n'a pas de sens.
Thierry Monsonepo, vous venez de dire que le chef de l'État lui-même a déclaré qu'il y a des problèmes au sein de cette constitution. Ça signifie qu'elle n'est pas bonne, il faut l'améliorer. Il y a des choses à améliorer, que la constitution n'est pas bonne. Voilà. C'est en quelque sorte ce que ça veut dire.
Vous avez très bien interprété, il y a des choses à améliorer, comme aussi en 2011, nous avions dit qu'il y avait des choses à améliorer dans cette constitution, ce qui a enclenché les résultats. Il y a eu, avec notamment l'article sur les tours des élections où on est passé de 2 à 1. Donc, c'est une œuvre humaine. Il y a des choses à améliorer selon que la nation ou la gouvernance a besoin de s'émanciper, adapter cela aux besoins de la population. Donc, moi, je ne vois pas du tout de problème à ce que, si c'était hier, le camp de l'AMP ou du FCC qui le fait, c'était légitime, c'était légal, mais lorsqu'aujourd'hui, c'est le camp de Félix Tshisekedi qui pense à cela, c'est illégitime, c'est illégal. Pourquoi? Parce que les gens se basent principalement sur des procès d'intention.
Et quels sont ces articles ou ces dispositions qu'il faudrait améliorer? Parce que jusque-là, c'est un peu flou. Hein? Les Congolais veulent savoir c'est quoi que vous voulez, vous de l'Union Sacrée bien sûr, que vous voulez qu'on puisse modifier dans cette constitution. On entend plus parler de l'article 217, hein, l'Union Sacrée martèle plus sur l'article 217 qui est diversement interprété. Est-ce qu'il y a que cet article-là qui gêne dans cette constitution ou il y en a d'autres?
Madame, au-delà de cet article, il y a aujourd'hui notamment le besoin de revenir aux élections à deux tours. Il y a notamment le besoin à ce que nous puissions permettre à nos fils et nos filles qui évoluent à l'étranger, qui ont épousé d'autres nationalités, dans le besoin de s'intégrer dans ces sociétés, de pouvoir recouvrer ou garder la nationalité congolaise, parce que, à notre entendement, la nationalité congolaise, elle est de sang. Au-delà de cela, il y a aussi cette mauvaise interprétation que les gens sont en train de faire en ce qui concerne c'est que la position du chef de l'État en ce qui concerne l'article 217, il n'y a pas ici lieu de dire qu'il y a de l'amalgame. Certes, l'Union africaine a 54 pays membres. Et parmi ces 54 pays, ce ne sont pas toutes ces nations qui ont signé pour que dans leur constitution, il y ait cette disposition où on céderait la souveraineté par rapport à des dispositions ou à des urgences qui concernent l'unité africaine.
En tout cas, la majorité des pays reprend la majorité de ces pays ont cette disposition dans leur constitution.
Mais madame, il ne faut pas qu'on oublie une chose. C'est que ce n'est pas puisque tout le monde fait toutes les choses que nous sommes obligés de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a fait face à des tentatives historiques de balkanisation, particulièrement dans l'Est, où des groupes armés bénéficient de soutien étranger. Une perte même partielle de souveraineté pourrait fragiliser davantage l'État central, rendant le pays vulnérable aux ambitions géostratégiques et économiques d'acteurs extérieurs, sans compter le contexte géopolitique et historique du pays qui justifie une approche prudente face à toute disposition susceptible de compromettre l'intégrité de notre territoire national. Donc si nous pouvons certes adopté la démarche du Ghana, qui a accepté cette possibilité au nom de l'Union africaine de laisser tomber certaines clés de souveraineté, mais tout en accompagnant cela dans cette même constitution des mesures d'encadrement, il n'y a pas de problème. Moi, je ne trouve pas de problème là-dessus.
Alors, il y a une autre...
Où est-ce qu'on va de cette discussion scientifique, de cette discussion géopolitique, au fait que le président Félix Tshisekedi souhaiterait s'éterniser au pouvoir? Encore une fois, des procès d'intention qui ne cadrent pas avec la réalité. Jamais le président Félix Tshisekedi n'a dit que je vais vers une révision constitutionnelle ou je vais mettre en place des Congolais qui vont réfléchir sur cette question l'année prochaine afin de m'éterniser au pouvoir. Ça, c'est vraiment une posture de ceux qui, malheureusement, ne sont pas du tout démocratiques, qui veulent imposer une pensée unique et qui refusent à ce que les autres puissent réfléchir.
Alors, M. Kambere a soulevé une autre question, une autre préoccupation, c'est par rapport à l'état des sièges. Hein. On sait que la Constitution interdit toute révision de la Constitution pendant l'état des sièges. Vous avez répliqué par rapport à cela pour dire qui dit qu'on le fera pendant l'état des sièges. Le président a annoncé que ça sera, en tout cas qu'il s'en gagne, hein, il a dit, en 2025, on aura une nouvelle Constitution. Est-ce que ça veut dire qu'on va lever l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour permettre au président de la République de pouvoir modifier la Constitution comme il le souhaite?
Madame, vous devez savoir que pour l'instant, le gouvernement fait des efforts, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi militaire, pour résoudre le problème d'insécurité qu'il y a dans l'Est de notre pays, qui malheureusement persiste et perdure depuis les années 1996 pratiquement. Et que l'espoir du peuple congolais, qui aujourd'hui a placé toute sa confiance en Félix Tshisekedi, et que les efforts diplomatiques et aujourd'hui les moyens qui sont donnés à notre armée puissent permettre à ce que cette insécurité puisse disparaître. Comme ça, il y aura levé de l'état de siège et nous allons avancer. Pour l'instant qu'il y a cet état de siège, personne n'a parlé de révision constitutionnelle à l'état actuel du pays. Ça serait une violation de la Constitution. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Mais donc, lorsque les amis sont en train de s'agiter, ils ergotent autour d'une révision constitutionnelle que l'on paierait maintenant alors qu'il y a état de siège.
Et puisque vous avez commencé du côté de l'Union sacrée, vous avez commencé quand même la campagne pour la révision de la Constitution. C'est ce qui pousse peut-être les autres à se dire que ça va se faire incessamment.
Mais madame, même si ça sera dans 2 ans, même si ça sera dans 3 ans, rappelez-vous, pas loin de nous ici, nos contemporains anglais ont eu à faire le Brexit. Les campagnes, les sensibilisations ont commencé 5 ans avant. Donc il ne faudrait pas, aujourd'hui, brandir le fait que moi, de l'Union sacrée, je puisse parler à des Congolais pour leur demander que l'on réfléchisse sur l'émancipation de notre Constitution, signifie que c'est demain. Et nous allons violer la Constitution parce qu'il y a état de siège pour retoucher la Constitution. Ça, ce sont des procès d'intention.
Merci.
Tout cela n'est pas normal lorsque on est en démocratie et que ce sont les faits, les éléments sur terrain qui déterminent l'orientation des débats.
Merci Thierry Monsenepo, Joseph Kongolo. Vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Quelle lecture vous faites de cette sortie médiatique de toute l'opposition réunie, pas seulement l'opposition, mais aussi des forces sociales et même des personnalités indépendantes sur la non-révision de la Constitution?
D'abord, je salue ces jeux politiques, ces jeux démocratiques, effectivement, quand il y a une force au pouvoir et une autre dans l'opposition, et à l'occasion des débats de société comme celui de la révision constitutionnelle, vous sentez cette participation politique, c'est un élément, c'est un acquis dans la culture démocratique et nous saluons, n'est-ce pas, cet échange, n'est-ce pas, dans la paix, dans la tranquillité entre les deux forces politiques en présence, l'une qui est au pouvoir et l'autre, c'est déjà quelque chose à saluer. Premièrement. Deuxièmement, il y a un déséquilibre au niveau du débat, un déséquilibre notoire au niveau du débat. Regardez, en la classe au pouvoir aujourd'hui, le président de la République pose un problème très clairement, et il donne des arguments que certains membres de l'opposition actuelle avaient avancé. Et il y a eu même un projet de loi introduit au Parlement pour modifier la Constitution. Donc, ils sont dans une situation d'inconfortabilité pour pouvoir défendre leurs arguments. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le président donnait des arguments, quelques arguments. Il vous dit que pour avoir un gouvernement après une législature, il faut attendre 6 mois, effectivement, si vous suivez la procédure. Il faut attendre 3 mois, la Cour constitutionnelle doit donner la liste définitive, il faut attendre le Parlement, le Sénat, et ainsi de suite, tout ça. Vous sentez qu'il vous donne des éléments pratiques, des éléments qu'il a vécu lui-même au pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il vous parle de la journée d'ailleurs, Thierry Moussonepo venait d'appeler quelques éléments. Donc, il est opposé par le président de la République où le camp de l'Union sacrée est clair. Mais quand on voit la réaction de l'opposition aujourd'hui, nous sentons un déséquilibre. Eux, ils sont dans la politique politicienne, pendant que les autres sont sur le terrain des arguments de taille, des arguments que eux ne peuvent pas réfuter parce que, avant le président de la République, parmi eux, il y en a plusieurs qui avaient déjà proposé cette révision constitutionnelle. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un débat tout à fait équilibré et déséquilibré parce que l'opposition qui réagit, apparemment, n'a pas d'arguments solides au-delà des arguments politiques qu'ils avancent et d'ailleurs qui sont peintés beaucoup plus d'intention. Je voudrais qu'il y ait un discours cohérent de l'opposition sur des faits pratiques tels que les a évoqués le président de la République. Et tout le cas contraire, vous comprenez, même dans la société, que c'est l'opinion de la division qui semble prendre un peu une avance sur cette autre opinion de l'opposition, apparemment, qui n'est pas suffisamment argumentée dans l'opinion. Alors, voilà à peu près comment je fais cette lecture. La sortie, elle est là. La réalité, elle n'est pas sous-tendue.
Oui. Oui, Joseph Kongolo, lorsque vous parlez d'arguments solides de la part du pouvoir hein, ou de la majorité, qu'est-ce que vous entendez par arguments solides? Pensez-vous que c'est qu'a dit le président de la République ou même le secrétaire général de son parti a convaincu les Congolais? Déjà, il y a une confusion entre les termes. Est-ce qu'il faut réviser? Est-ce qu'il faut, sur la révision ou le changement de la Constitution? Ça fait déjà débat par rapport à ça. Alors, comment vous expliquez ou vous soutenez qu'il y a un argument solide du côté de la majorité? On ne vous suit pas, Joseph Kongolo.
Okay, les arguments sur du président sont clairs, connus. Oh là là.
Allez-y.
Est-ce que là, ça va?
Oui, ça va, allez-y.
Ça va maintenant?
Allez-y, Joseph Kongolo.
Je disais que le président de la République a posé des problèmes de... Oui, les arguments solides, ce sont les faits qui sont vérifiés sur le terrain. On a vu comment, pour sortir le gouvernement, il fallait attendre plus de 6 mois. C'est un fait.
Mais
on a
eu un
débat dans la société sur la double nationalité.
Qu'est-ce que c'est là à voir avec la Constitution, Joseph Kongolo? Le fait que le gouvernement ait pris 6 mois, ça c'est une organisation au niveau, je pense, hein, du regroupement politique. Est-ce que c'est la Constitution qui peut empêcher à un président de la République de former son gouvernement?
Non, madame, ce n'est pas ça. Non, ça, c'est pas vrai. La Constitution organise toutes ces choses. C'est organisé dans la Constitution, on ne peut pas les violer. On ne peut pas violer cette Constitution-là. Donc, elle veut que le Parlement, qu'on identifie la majorité au niveau du Parlement et qu'on suive la procédure telle que la Constitution l'a déjà indiquée.
Ça peut se faire par l'accord.
Respecter cette Constitution, tout le monde
publie. On a eu des gouvernements qui se sont formés.
Non, madame, ce n'est pas un accord, parce qu'il y a la Constitution.
On a eu des gouvernements qui se sont formés en moins de 6 mois.
Pas ici chez nous, pas ici chez nous.
Si. Allez-y, monsieur Kongolo.
Non, madame, à la fin de la législature, pour commencer la nouvelle législature, c'est à ce niveau-là que se pose ce problème. Et la Constitution a tout organisé, et pour suivre et respecter cette Constitution, il faut attendre à peu près en moyenne 4-5 mois pour pouvoir avoir tous les résultats, tous les fondamentaux pour pouvoir sortir un premier ministre et même le gouvernement. Ça, ce sont des choses vérifiables sur le terrain. Vous avez encore aujourd'hui l'instabilité des gouvernements provinciaux. Cette instabilité est due à des fautes ou à des erreurs qui ont été de conception de cette constitution. Ça, c'est un autre élément là. Donc, il y en a comme ça que les autres ont vérifié, ils ont vécu ça, mais ils n'ont pas eu la présence d'esprit de les transformer. Ça, c'est la deuxième chose. Un autre élément, madame, vous savez, nous sommes dans une situation d'inconfortabilité sécuritaire. L'article 217, même si elle se retrouve dans d'autres constitutions, mais nous, nous sommes confrontés à une balkanisation organisée. Et c'est par cet article, c'est une fenêtre qu'il faut fermer et boucher pour l'instant, au moins pour l'instant. C'est quelque chose qu'il faut boucher parce que c'est par là que on peut trouver un argument pour justifier la balkanisation aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour nous particulièrement, nous pouvons élaguer, même momentanément s'il le faut, cet article pour qu'elle ne serve pas de fenêtre à ceux-là qui veulent la balkanisation de ce pays. Voilà. Donc ce sont des arguments qui sont très clairs et moi j'aimerais que le véritable débat arrive quand la commission que le président de la République va convoquer, c'est un fait politique, hein, ce n'est pas juridique. Donc, quand on va nous donner les véritables articles qu'il faut modifier, à ce moment-là, le débat de fond peut commencer. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, madame, très important, c'est sur le langage ambigu du président de la République. Ah, qu'est-ce que ça signifie? Voici ma lecture. On peut présenter quelques articles. S'il vous plaît, je termine. On peut présenter quelques articles, mais la modification de ces articles risque de toucher les 220, et en ce moment-là, le changement de la Constitution dans le trou du président de la République se justifie. Donc, pour l'instant, on est au niveau de la révision constitutionnelle, mais quand on va réviser ces articles, et qu'il y aura nécessairement possibilité de toucher les 220, à ce moment-là, c'est le changement qui va se justifier. Donc, c'est un discours qui a prévu tout ce qui peut arriver. La révision, mais la révision peut entraîner le changement du discours politique. Donc, c'est cette ambiguïté qui est entretenue par le discours du président de la République en fonction de la dynamique qui pourrait naître dans la constituante ou dans la nouvelle constituante qui sera soit au niveau du Congrès, soit encore au niveau même de la population. Donc, on peut... C'est ce qui justifie aussi cette campagne que le président de la République a commencé à temps et même le temps du chef de l'État. Je crois qu'il n'y a pas eu réplique à la dimension, à la hauteur de ce que le président a fait de la part de l'opposition. Et c'est ce déséquilibre-là qui risque effectivement d'amener le président à réviser la Constitution, et même de changer cette Constitution, parce que eux, le rapport de force est en déséquilibre en leur défaveur.
Avant de vous redonner la parole, Maître Kambéré, on va ouvrir notre standard pour écouter aussi ces Congolais hein, qui ont envie de s'exprimer sur la question. On va se rendre à Bukavu, au sud Kivu, pour écouter cet auditeur. Alors, je disais, on va se rendre à Bukavu pour écouter Isaac, qui appelle depuis Bukavu. Est-ce que sa ligne passe? On n'arrive pas à voir...
Isaac Pankori qui a parti de Kinshasa. Au lendemain de la révision de 2011, alors que le FCC, alors au pouvoir, avait supprimé le deuxième tour de l'élection présidentielle et occasionné les mandats illégaux et illégitimes du Sénat et aux assemblées provinciales, s'était frotté les mains en disant que le ciel n'est pas tombé, malgré les remous que la chose a provoqué dans l'opinion. Quant à leurs adversaires d'hier aujourd'hui au pouvoir, au cas où ils tiennent mordicus à la révision et font le passage en force, le ciel va-t-il tomber?
Maître Kambéré, c'est une question qui vous est adressée. Hein?
Merci beaucoup, Madame Kelly. J'étais très content de suivre mon ami et frère, Monsenepo. Parce que, vous savez, les amis avec qui on était d'abord dans les FCC, quand ils se mettent à être les meilleurs avocats aujourd'hui de l'IDPS, parfois ils se mettent à défendre ou à faire des dénégations qui ne sont pas ceux des gens de l'IDPS. Parce que quand le président parle d'une constitution obsolète en Belgique, Monsenepo, il dit quoi? Dit à parler d'obsolète, ça signifie qu'il y a dans la constitution des dispositions. Mais à Kisangani, quand il dit constituant les amabés, lui traduit ça comment en français? Et quand il dit, il nous faut, je vais créer une commission nationale multidisciplinaire pour faire le projet d'une nouvelle constitution. Monsenepo, il prend ça comment? Je crois qu'il y a parfois des débats où il faut éviter de se ridiculiser. il faut éviter de se ridiculiser. Parce que quand on parle d'une nouvelle constitution, ça veut dire l'autre n'est plus là. Et nous, on a vécu ça déjà en RDC. La jurisprudence était à 67. Coup d'État constitutionnel contre la constitution de Luluabourg de 1964. Finalement, il y a un groupe d'individus qui s'organisent pour sursoir à cette constitution. À 67, quand il y a une nouvelle constitution autoritaire, hein, qui a le visage d'une constitution qui donnerait des visages peut-être démocratiques, mais à la fin, à 67, quand il fallait promulguer cette constitution de 67, mais c'était le même jour qu'il fallait dissoudre, d'abord abroger la constitution de 64 et dissoudre le parlement de l'époque. Alors Monseigneur, pour lui, quand un président, notre président, qui a prêté serment, il est assermenté et il gère de protéger la constitution, de défendre la constitution, de l'observer. Et lui, il passe dans les médias et c'est documenté dans tous les journaux, ça a été repris qu'ils sont à la campagne pour une nouvelle constitution et que l'IDPS la campagne. Monseigneur, pourquoi que ces arguments pour dire non, il y a procès d'intention, ce n'est pas ce qu'est le président, et que c'est ce que les gens ont écouté, vraiment, les gens qui, les esprits s'y sont surchauffés, c'est ce que Monseigneur pour dire ou c'est ce qui a été dit, non seulement par le président, mais aussi par Kabuya. Lui va effacer tout ça. Bon, celui qui suit aussi, je croyais, suivre une analyse plus ou moins scientifique par rapport à ça, mais t'as des contradictions totales, Madame Kelly. Il vous dit d'abord, hein, les arguments du président sont clairs, et les opposants, leurs arguments ne sont pas, c'est pas moi quel terme il a utilisé, mais à la fin il vous dit, l'argumentation, le langage du président est ambigu. Parce qu'entre-temps, quand il parle de la révision, mais il peut y avoir une révision, une dynamique qui va nous entraîner qui va entraîner cette commission à proposer qu'on touche aussi aux dispositions intangibles. Mais on parle de quoi? Mais si vous parlez à une constitution qui a prévu des dispositions pénales, parce que le droit pénal, mon cher Moussenepo et Joseph Kongolo, lorsqu'on les a mises dans cette constitution, c'était protégé pour protéger les valeurs qui ont été mises dans cette constitution, et ce sont des valeurs qui doivent à soutenir comme pilier notre démocratie, soutenir l'état de droit. Et parmi les valeurs symboliques pour soutenir l'état de droit, en dehors du fait que les autorités acceptent de se soumettre aussi au droit, mais c'est la limitation des mandats, le principe de limitation des mandats. Mais dès lors qu'on commence à flirter que, bon, la commission là pourra proposer, donc jusque-là, ça signifie que jusque-là, le président lance une campagne, mais il ne connaît pas encore les dispositions. C'est cette commission qui déterminera.
Vous avez donné quelques articles.
C'est comme l'article 217, lorsque le président finalement à Lubumbashi, dans ses dénégations, il dit, moi je n'ai pas parlé de mon mandat, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. C'est parce qu'il en a parlé à Kisangani. C'est parce qu'il en a parlé
à Kisangani. Mais à Kisangani, il n'avait jamais dit qu'il allait...
Si, il a effleuré. Quand on parle d'une nouvelle constitution, madame, c'est quoi? Quand il parle du testament de Tshisekedi, Étienne, qui a demandé qu'il revoie, c'est quoi? Mais pourquoi il n'y a que deux qui sont en campagne?
Il va faire son mandat, il quitte le pouvoir et il vous laisse, vous, peuple congolais, une nouvelle constitution.
Non, c'est d'abord ça, la grande confusion, d'abord... dans ce qu'il y a. C'est pourquoi je parle des dispositions pénales pour protéger cette constitution. Merci. Et lorsque vous comportez mal, même le comportement du président est sanctionné pénalement. Même le comportement du premier ministre. C'est à dessein qu'on l'a fait par rapport aux expériences. Il y a peut-être d'autres constitutions. On a parlé ici des Kamitatu qui auraient dit que c'est une petite sœur. Mais ça fait quoi? Petite sœur, ça signifie quoi? Mais la constitution de la France est là depuis 58. Elle a été révisée combien de fois? Mais pourquoi on n'a jamais parlé? Pour autant
merci,
de révisions, on n'a jamais parlé de nouvelles constitutions.
Merci, maître.
Aux États-Unis, on a parlé d'autant de révisions.
Merci, s'il
vous
plaît.
Je voulais dire à celui qui a parlé de la révision de 2011 pour le rassurer. Cette révision-là ne concernait pas les dispositions intangibles. Si on a dit que le ciel n'était pas tombé parce que la campagne, tout le monde pensait qu'on allait réviser une des dispositions verrouillées dans la Constitution. Mais à la fin, ce n'était pas ça.
Merci.
Tout le monde a compris que c'était une modalité des élections par rapport à la majorité
Merci,
simple
Maître
et
Combéré.
Absolue.
On vous a suivi.
Il n'y avait rien, il n'y avait pas les ciels. Ce n'est pas l'État aujourd'hui.
C'est le deuxième auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Benjamin Melima Melingo. Je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. L'analyse que nous pouvons faire de cette déclaration est que les points soulevés par les forces politiques reflètent la réalité que nous traversons actuellement. La modification ou le changement de la Constitution ne sera que profitable aux politiques et au détriment des intérêts du peuple. Présentement, la situation sociale, économique et sécuritaire au sein de notre pays sont déplorables. Donc le président doit attaquer les promesses faites lors de la campagne électorale, car il nous avait promis que ce dernier mandat sera un mandat du social des Congolais. Curieusement, c'est la révision ou le changement de la Constitution qui lui préoccupe de plus, en laissant ainsi la population dans une précarité inédite.
Thierry Moussenepo, votre réaction, hein, brièvement.
Merci beaucoup, madame. D'abord, je constate avec beaucoup d'amertume que mon cher aîné, Maître Ferdinand, que je respecte beaucoup, est en train de faire un mélange du genre. C'est-à-dire, il prend les propos de M. Augustin Kabouya, qui est président AI d'un parti politique, qui est un fait privé, et laissé habiller au président de la République. Moi, je trouve que c'est un raccordement frauduleux. Si vous allez vous attaquer aux propos du président AI de l'UDPS, faites-le sans citer le président de la République. Parce que lorsque vous dites que le président de la République a parlé d'une constitution obsolète, ce n'est pas une insulte, mais un constat. Elle doit évoluer, cette constitution, pour répondre aux défis actuels de la RDC, comme l'insécurité à l'Est et les menaces sur la souveraineté. Lorsqu'il parle de cette obsolescence, c'est par rapport au fait que, adoptée en 2006, dans un contexte post-conflit, elle présente des limites qui nécessitent des ajustements pour garantir une gouvernance efficace et moderne. Donc, un processus démocratique qui est cette révision ou cette modernisation de notre loi fondamentale, et donc la réviser, cette constitution est prévue même par cette même loi fondamentale. Donc, le dialogue autour d'une consultation, autour d'une commission, ne sont pas du tout des violations de la loi fondamentale. Ça, c'est vraiment une dictature pure que d'interdire même à un président de mettre en place des Congolais qui peuvent réfléchir sur une émancipation de la loi fondamentale. Je n'ai jamais vu ça sauf dans le chef de ceux qui aujourd'hui se disent pour le peuple, mais en réalité sont des dictateurs en herbe.
Alors comment vous réagissez, s'il vous plaît, Thierry Monsenepo, sur la préoccupation de cet auditeur de Kisangani?
Bon, écoutez, d'abord, il faut que notre frère qui est à Kisangani comprenne que, contrairement à ceux qui ont pris la parole à la Cinco, le président de la République est porteur d'un mandat populaire et d'une population qui l'a voté massivement. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est aussi la Bencholé qui est le propriétaire de là où nos amis ont loué la salière. Donc, sur ce fait-là, les Congolais lui ont fait confiance pour les prochaines 5 années pour qu'il puisse penser à leur mieux-être. Et chaque jour, le président le fait par les sacrifices et les programmes qu'il tient pour la gratuité de l'enseignement, pour la couverture santé universelle. Et donc, demain, s'il réfléchit sur l'émancipation de la loi fondamentale, c'est aussi pour que ça puisse bénéficier aux Congolais, contrairement à nos amis qui se tarent dans l'obscurité et qui ne réfléchissent que sur les possibilités de déstabiliser le pays via des manœuvres qui ne sont pas du tout démocratiques, par des postures qui sont dictatoriales et qui malheureusement vont rejoindre l'inquiétude de notre frère parce que ça ne va jamais rencontrer les aspirations de notre peuple. D'ailleurs, pour eux, le peuple n'existe pas parce que ils ont refusé la consultation de ce peuple en décembre de l'année dernière. Donc pour eux, la démocratie se conjugue sans le peuple. C'est eux le peuple, c'est eux la pensée unique, c'est eux la vérité. Donc voilà des cordons ombilicales uniques d'un égoïsme et d'une dictature abjecte que nous ne pouvons pas accepter.
Merci. On va aller cette fois-ci à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, pour écouter ces derniers auditeurs.
C'est Victor Kazadi, j'appelle depuis la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Le vrai problème de la RDC, ce n'est pas la constitution, mais plutôt le manque de volonté politique de ces dirigeants qui, au lieu de servir la population, se servent de la population. On peut avoir le meilleur texte du monde, mais sans la volonté politique, rien ne marchera. Souvenez-vous, lors de son premier mandat, il disait que c'était le FCC qui bloquait les actions du chef de l'État. Mais aujourd'hui, ça devient la Constitution. Monsieur le président Tshisekedi doit tout simplement assumer son bilan qui est mitigé, plutôt que de chercher des boucs émissaires.
Joseph Kongolo, brièvement.
Oui, je reprends Victor pour lui dire que, parce qu'il aime lire, il peut lire le livre de Thomas Paine. C'est un révolutionnaire américain. Il dit ceci dans de l'indépendance des nations, que parfois, vous pouvez chercher les raisons de votre sous-développement ailleurs, alors que c'est dans les lois qui vous dirigent, dans les lois qui dirigent, qui vous égorgent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'aller plus loin, d'améliorer, de dépasser certains niveaux et d'aller plus loin. Ça, c'est Thomas Paine, un révolutionnaire américain. Et effectivement, il a raison. Il y a des lois. Ils peuvent nous étouffer, nous empêcher d'aller plus loin. Oui, on peut avancer, mais pas d'aller plus loin. Et ça, c'est visible dans la gouvernance ici chez nous, avec des raisons que le président a évoquées. Évidemment, il y en a d'autres, il y en a plusieurs d'ailleurs qui montrent qu'il y a effectivement des lois qui étouffent, qui sont suicidaires, qui ne peuvent pas amener le pays à aller beaucoup plus loin. Et c'est un faux débat. Quand vous voyez des gens, des professionnels de politique, qui vous disent que écoutez, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la loi qui peut vous empêcher. Non, ça c'est un faux débat. C'est un débat de un débat social, un débat de société, mais en réalité, en profondeur, la loi, c'est ça, un tremplin qui peut vous amener beaucoup plus loin, et la loi peut aussi vous empêcher de vous développer. Le président de la République au pouvoir aujourd'hui a trouvé effectivement qu'il y a des éléments qui l'empêchent d'améliorer la gouvernance, mais aussi la gouvernance sécuritaire, la gouvernance dans tous les autres secteurs, et il a trouvé effectivement il y a des choses qu'il faut corriger. Et il partage cette idée avec nous. C'est à nous de dire que oui, il a raison ou il n'a pas raison. Ça, c'est le débat sur cette société. Et évidemment, c'est ce que nous devons faire. Mais je constate que la position de l'opposition, elle est tranchée extrême inutilement. Je crois que c'est aujourd'hui qu'ils doivent entrer en profondeur pour contrer les arguments du président de la République qu'il a déjà, en tout cas, les arguments du président de la République qu'il a déjà donné, et avoir des arguments solides, plutôt que de faire des déclarations purement politique, alors qu'il y a des textes avec le terrain politique.
Merci. Rachidi Koudra, qui est journaliste à la radio de l'Université de Bounia, à l'heure actuelle, conformément à l'article 219 de la loi fondamentale, il est impossible de réviser la Constitution, car le pays est en guerre, même si l'état de siège peut être ou ne pas être levé, mais tant qu'il y a la guerre, ça sera impossible. Valentin, voilà, voilà, ce sont des réactions qui tombent. C'est en direct, je rappelle, cette émission qui passe sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. David Wade depuis Kinshasa, c'est un coup d'épée dans l'eau, car l'opposition actuelle semble être fragile. En 2011, sous l'ère d'Étienne Tshisekedi, il y avait moins de canaux de communication qu'actuellement, mais la voix de l'opposition se faisait entendre même dans les villages les plus reculés. Emery Baloukou, depuis Goma, nous saluons la bravoure du président, mais aussi nos vives encouragements à l'opposition congolaise qui a failli à sa mission en montrant ses limites, surtout en se divisant à cause des intérêts personnels. Désiré Routa, depuis l'Afrique du Sud. Le président lui-même avait dit à Lubumbashi que le changement de constitution ne va pas améliorer les conditions de vie des Congolais. Le président cherche seulement à briguer le troisième mandat. Aujourd'hui, on ne parle pas de la guerre qui endeuille la population de l'Est, mais il cherche à modifier la constitution pour son intérêt personnel. On va conclure cette émission, Ferdinand Cambéré. Alors, vous avez suivi les réactions des auditeurs, hein, des uns et des autres. Il y en a même un qui dit que on ne vous sent pas, on ne sent pas l'opposition. Aujourd'hui, elle est affaiblie, hein, un peu comme le président l'avait dit à Kisangani. Gagné, hein, une opposition faible, quoi.
Non, je crois que Il se trompe. Parce que si l'opposition était si faible et le peuple si faible que le peuple n'était pas vigilant, il n'y aurait pas des dénégations comme on est en train de le voir. Non, je ne vais pas parler, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. Nous, nous saluons cette vigilance du peuple et nous demandons que ça reste, qu'on continue à exiger ça, parce que c'est dans notre constitution, que ces autorités respectent la constitution, qu'ils défendent la constitution. Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a cette constitution, au moins la première, qui peut encore nous assurer cette alternance au sommet du pouvoir. Moussene pour revient tout le temps, lui, en train de taxer l'opposition d'être dans les allures dictatoriales. Mais ça m'étonne. C'est pas que quand on est dans le camp du pouvoir que tout le temps aussi il faut changer des lunettes. À un moment donné, l'objectivité, vous avez et l'armée, la police, les services, vous vous lancez dans une campagne anticonstitutionnelle pour une nouvelle constitution alors que celle-là n'est pas abrogée. Et celui qui ose, Sessang a été arrêté par qui? Par l'opposition? Enfin, on est où?
C'est pas
parce qu'on veut simplement plaire à ceux-là qu'on veut entendre.
En conclusion, s'il vous plaît.
Ouais. Donc en conclusion, je voudrais au moins, l'article qui a été soulevé par le président, c'est l'article 217, où il a parlé des ventes de notre souveraineté ou de notre terre, ce qui était répété à longueur de journée, pour leur dire qu'il y a l'article 214 qui assume. Et que l'article 9 aussi de notre constitution, qui dit clairement que la souveraineté permanente, c'est à la République, c'est à l'État, sur ces matières dont il voulait demander aux gens. Nous disons ici, nous rappelons ici, que c'est lui qui a dit qu'on ne se battra
pas. Il faut conclure, monsieur Kambere.
Je suis en train de conclure que le président doit renoncer. Il doit renoncer clairement à sa campagne-là, comme il a fait à Lubumbashi, qu'il garde toute sa sérénité pour travailler pour la population.
Merci, monsieur Kambere. S'il vous plaît.
Monsieur Kambere. Vous lisez les rapports de la CENCO sur les élections.
Merci. Nathan Biya.
C'était des élections chaotiques.
Monsieur, le régime de du président Félix Tshisekedi a largement échoué sur tous les plans. Quelle est la nécessité de modifier la Constitution à l'heure actuelle? Que cache-t-il derrière cette volonté à vouloir à tout prix modifier ou changer la Constitution? Fiston Piana, il y a des priorités au pays telles que la baisse du taux du dollar, les histoires de modification ou changement de constitution, c'est échoué de faire l'essentiel. Alors, monsieur Thierry Moussène, pour votre conclusion, nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
Ma conclusion est claire. Il ne faut pas dire aujourd'hui que le président Tshisekedi et son régime a échoué parce que il y a des avancées en ce qui concerne notamment l'indice de développement humain des Congolais. Mais par contre, votre correspondant a tout à fait raison lorsqu'il dit que cette opposition n'est pas du tout une opposition du peuple. On ne les a jamais vus aussi unis lorsqu'il fallait condamner l'agression du Rwanda. On ne les a vus jamais aussi unis
les Rwanda et la
lorsqu'il fallait monsieur Kambere
soutenir nos populations dans l'est de la RDC. Mais ils ne sont unis que lorsqu'il s'agit de pouvoir lancer des diatribes et des contributions qui frise la dictature. Donc en conclusion, je dirais ceci, madame. Ceux qui ont volontairement boycotté les élections de 2023 ne peuvent prétendre aujourd'hui parler au nom du peuple. Leur absence de mandat populaire les discrédite dans leur rôle d'interlocuteur légitime. Une démocratie ne peut exclure le débat. Le président Tshisekedi propose d'ouvrir une réflexion sur la Constitution, ce qui est un processus démocratique normal. Empêcher ce débat revient à instaurer une pensée unique, contraire au principe même de la démocratie qu'ils sont en train de prôner. Donc ici, le souci, c'est de moderniser en révisant la Constitution, ce qui ne signifie pas la rejeter, mais l'adapter pour qu'elle réponde aux défis et ambitions du peuple congolais.
Merci.
Refuser cette démarche et s'opposer au progrès de la souveraineté nationale.
Merci. Elinor Boukiaka, pourquoi vouloir changer la Constitution seulement au deuxième et dernier mandat? Santos Sam tweetait, même si on considère les arguments de Monsieur Thierry Moussene pour délever l'état des sièges, est-ce qu'ils arriveront aussi à arrêter la guerre? Joseph Kongolo, votre conclusion.
Je voudrais dire que nous avons plus de 20 ans d'expérience démocratique. Je crois que nous devons quitter la surface quand il faut un débat des responsables,
la surface pour la profondeur. J'ai comme l'impression qu'on est resté au niveau de la surface, déclaration politique, parfois des procès d'intention. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller en profondeur dans le débat et peut-être aider aussi la population à nous accompagner, à nous suivre dans la profondeur. C'est très important que de rester dans la déclaration politique qui sont des déclarations de surface, pour que c'est une matière bien précise, une matière qui a besoin de réflexion profonde pour aider la compréhension de l'opinion, mais aussi dans faire échange, n'est-ce pas, entre deux camps, la lumière va jaillir absolument. Donc, merci. Il n'y a pas de raison de faire des écarts éthiques, ainsi de suite, et tout ça. Je pense que nous devons quitter la surface pour aller en profondeur dans ce débat. C'est bon pour la population, c'est bon aussi pour nous.
Merci, Joseph Congolais. On a fini l'émission, c'est fini, hein, monsieur.
Non, c'était juste pour simplement dire que, bon, les débats dont on dit, c'est pas par les présidents que ça doit être lancé.
Merci.
Les débats, c'est dans les
universités.
Merci,
monsieur Kambéré. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.